Bienvenue à l'aventure, Robert Blondin ici. L'aventure aujourd'hui d'un ami, d'un grand ami à moi qui s'appelle Claude de Gaspé Allen. Et il y a un troisième personnage que vous allez entendre tout le temps respirer, peut-être aboyer, s'exprimer, on ne sait pas. Il y a un chien. Et Claude, c'est indissociable de son chien, ou le chien est indissociable de Claude. On n'a jamais su exactement dans quel sens ça allait.
Qui était qui?
Tu t'appelles Claude de Gaspé Allen, c'est un nom bien noble au Québec, ça?
Bien, c'est je suis un descendant de Philippe Aubert de Gaspé, en fin de compte, comme beaucoup de... comme certains qui se sont distribués dans des familles qui portent un nom double, comme de Gaspé Stewart, de Gaspé Aline, de Gaspé Beaubien, de Gaspé. Et le nom était donné à l'aîné de la famille, dans mon cas, pour pas que de Gaspé Aline, Philippe Aubert de Gaspé avait des filles, il avait un fils, mais voulait que son nom se perpétue. Alors donnait à l'aîné le nom de son nom de Gaspé. Et c'est comme ça que ça se perpétue.
Ça se perpétue encore.
Ouais.
Claude, t'es peintre. Tu t'as consacré entièrement ta vie. On va raconter comment ça s'est passé, la transition. T'es peintre. Peintre à plein temps, installé.
Ouais.
On est ici chez vous.
Oui,
une maison dans
ça.
Les cantons de l'Est. Ouais. Et tu peins à plein temps.
Ouais.
Ça a commencé quand dans ta vie, cette passion de peinture?
Très jeune. C'est que quand j'étais dans mon enfance, j'ai été touché par une maladie assez terrible à cette époque-là, qui m'a confiné dans une certaine solitude. C'était l'épilepsie. Je me suis mis à faire des crises d'épilepsie à l'âge de 6 ans et je me suis beaucoup retourné sur moi-même. Et je me suis mis à dessiner et puis à m'intéresser aux couleurs. Et puis, ma famille me donnait des boîtes d'aquarelle, des crayons de couleur, ce genre de choses-là. Et finalement, ben j'ai développé de l'intérêt pour ça. Mais je n'avais jamais envisagé d'en faire un métier ou un gagne-pain. C'est une autre voie que j'avais choisie. Je voulais écrire. Et j'étais en dépit de cette maladie que j'avais, qui m'a quitté à l'âge de 24 ans, j'avais une famille extrêmement cultivée autour de moi et on m'a beaucoup, beaucoup guidé dans l'univers littéraire et puis dans l'univers musical aussi. Alors, j'ai découvert à l'âge de 16 ans Louis-Ferdinand Céline et Henry Miller. J'étais très jeune pour découvrir ces choses-là. Puis, c'est des œuvres qui m'ont complètement influencé et donné le goût d'écrire aussi. Et un jour, par surcroît, je mets la main sur un livre de Henry Miller qui s'appelait « Les livres de ma vie ». Et j'ai passé plusieurs années à lire l'entièreté des livres qui considéraient comme des livres qu'il fallait avoir lus dans sa vie.
J'ai fait la même chose.
Et c'est il est bien malheureux que ce livre-là soit pas plus connu, parce que finalement, c'est un répertoire d'œuvres souvent de l'entre-deux-guerres, mais en même temps de l'époque classique. Et Miller était un homme extrêmement cultivé. Et aussi qui donnait à quelqu'un de 17-18 ans le goût de vivre sa vie, parce qu'on connaît la vie d'Henry Miller, qui a émigré des États-Unis vers la France, qui a fait des boulots qui ne l'intéressaient pas, mais qui a réussi à se maintenir en vie en France, tout en produisant des chefs-d'œuvre, tu sais. Et alors, finalement, donc, j'avais le goût d'écrire et j'ai essayé et je me suis rendu compte que j'avais aucun talent. J'arrivais pas à bâtir une histoire, j'arrivais finalement à n'écrire qu'une page après beaucoup de temps. Alors finalement, j'aurais peut-être dû persister, mais je me suis dit, tiens, je vais m'y prendre autrement, je vais gagner ma vie en écrivant. Je dominais quand même assez. J'étais un bon rédacteur. Alors j'ai travaillé pendant des années comme rédacteur auprès de toutes sortes de sociétés, Télé-Québec, Hydro-Québec.
Tu rédigeais quoi?
Je rédigeais des textes qui étaient... quand je travaillais à Télé-Québec, je rédigeais des textes qui étaient reliés aux émissions culturelles de Télé-Québec. À Hydro-Québec, j'étais chargé d'écrire des documents techniques, préparer des conférences techniques sur, je ne sais pas, moi, par exemple, une conférence qui avait lieu en Asie du Sud-Est pour mettre en application une technologie que Hydro-Québec avait développée, qui était de reconstruire, de rajeunir de vieux barrages avec des équipements de pointe. Et alors, je me souviens d'avoir préparé ça. C'était très intéressant. C'était passionnant. Il y avait là aussi un arsenal qui aidait beaucoup les rédacteurs. Hydro-Québec, en fin de compte, je les associe beaucoup. Ce sont les jésuites de l'électricité, finalement, si on peut voir comme ça. Et pour leur rédacteur, ils mettaient à la disposition de leur rédacteur une variété de documents et de soutien et de tout ça, de sorte que ça m'a beaucoup passionné. J'ai eu aussi l'occasion d'écrire des mémoires. Je l'ai fait pour l'Union des artistes, une fois, alors que son président était Serge Turgeon, je pense. Et c'était un mémoire, c'était la position de l'Union des artistes en regard de la commission Bélanger-Campeau, qui était une commission sur la culture au Québec. Et finalement, après ça, j'ai travaillé pour des boîtes d'économistes, faire des études par exemple, pour la communauté métropolitaine de Montréal, dans le domaine alimentaire. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, à la vache qui est dans son pré et qui aboutit dans votre assiette sous forme de T-bone, par exemple? Alors, cette côtelette-là a passé où? Comment la vache a été nourrie? Où a-t-elle été abattue? Comment a-t-elle été traitée dans la chaîne de froid qui permet de garder les aliments frais?
Donc, tu fais des rédactions, tu rédiges.
Oui.
Mais pour rédiger, tu fais de grosses recherches de documentation.
Tout à fait, oui, oui.
Il n'y a personne qui fait ça pour toi.
Là. Non, non, non. Mais en fin de compte, pour revenir à la question que tu me posais sur la peinture, c'est que je viens d'une famille, mon père était un homme libre, un type qui a, à un moment donné, décidé d'abandonner ce qu'il avait l'habitude de faire, de fermer son bureau, de s'acheter un voilier, d'amener ce voilier-là en Floride et de faire des expéditions aux touristes québécois en mer. Et ça leur donnait le mal de mer. Ils avaient peur de l'eau. Ils les ramenaient à terre. Ils en reprenaient d'autres. Et puis, ça allait bien, son affaire.
Tu naviguais avec lui des fois aussi?
Oui, j'ai déjà été. Et oui, il y avait aussi dans notre famille toute une culture des batteurs à voile. J'ai fait beaucoup de voile dans mon enfance. Alors finalement, tout ça pour dire que je pense que j'avais cette génétique-là de mon père. Et à un moment donné, une de mes blondes m'a dit, Claude, tu devrais faire de la peinture, tu as du talent pour ça. Et cette blonde que j'avais, qui était une très jolie fille, que j'avais rencontrée en Abitibi, parce que j'ai aussi, à travers tout ça, au début de tout, fait de la prospection pour une compagnie minière qui s'appelait la Matagami Lake Mines. Et cette compagnie-là m'avait envoyé en Abitibi. Je vérifiais les prétentions des fermiers locaux qui prenaient souvent des échantillons minéralisés de pits de mine qu'il y avait là-bas, les amenaient chez eux et prétendaient appeler la compagnie et dire, écoutez, j'ai trouvé chez moi des échantillons minéralisés. Je suis convaincu que j'ai... ça vaudrait la peine de faire un trou de foreuse chez nous pour voir ce qu'il y a dans le sous-sol, parce que je suis convaincu que je suis assis sur une mine. Et un coup de foreuse amenait une redevance au fermier de la part de la compagnie. Et ce fermier-là, chez qui j'étais, avait deux très jolies filles, et finalement, qui ne m'ont pas laissé indifférente. Alors, je me suis... attaché à l'une d'elles qui est devenue ma blonde. C'est une histoire qui a duré pendant 5 ans. Et j'avais à peu près 23 ans à cette époque-là et je faisais encore des crises d'épilepsie. Cette blonde-là est infirmière psychiatrique puis elle m'a dit « ça n'a pas d'allure, il faut s'occuper de ça ». Et finalement, elle m'a pris en charge et puis m'a fait rencontrer des médecins qui m'ont finalement... des neurologues qui m'ont finalement amené à me débarrasser de cette maladie-là qui m'a complètement abandonné. Je n'ai plus jamais eu d'ennui avec l'épilepsie. Et cette fille me dit, écoute, tu as du talent pour le dessin, tu as du talent pour... Tu devrais t'y mettre, tu sais. Puis alors, j'ai commencé à m'y mettre, puis plus je m'y mettais et que j'allais voir d'expositions, je me suis senti... j'ai senti finalement que la lumière du Saint-Esprit était tombée sur moi et que je devais faire ça. Et de notre côté, je ne voulais pas crever de faim. Alors, je me suis dit, je vais essayer de trouver des contrats en rédaction qui sont payants et je vais gagner de l'argent. Quand ces contrats-là vont être terminés, je vais peindre jusqu'à ce que j'ai plus d'argent. Et là, je vais rechercher des clients. Et je vais retravailler et ainsi de suite. Et tous les contrats dont je vous ai parlé tantôt pour les boîtes dont je vous parlais sont des contrats qui ont été réalisés dans ce cadre-là. Un peu de travail, un peu de peinture, un peu de travail, un peu de peinture, un peu de travail. Et à un moment donné, je suis un transfuge des Laurentides. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans les Laurentides. Notamment dans un merveilleux endroit qui s'appelait Arundel, près de Saint-Jovite. Et j'y suis resté 4 ou 5 ans. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que la culture des Laurentides ne me convenait plus. Je trouvais que c'était une culture de chevaux-vapeur, puis de béton, puis d'asphalte et de bruit automobile, de VTT et tout. Alors finalement, je me suis dit, je vais essayer d'un canton de l'Est. Et puis finalement, à un moment donné, j'arrive dans les cantons de l'Est. Il y a une maison à vendre. L'agent est après piquer la pancarte dans un rang. C'est une vieille maison de ferme. Je la vois. Je dis à l'agent, écoutez, c'est pas la peine même de la visiter. Je vous l'achète. Alors, vous voulez l'acheter comme ça, vous voulez pas l'avoir? « Oh, ça va me plaire, je suis sûr. » Alors finalement, c'est pas je recommande à personne d'avoir la même attitude que moi, parce que j'ai découvert après qu'il y avait il y avait beaucoup de travail à faire pour la remettre à flot. Mais finalement, je me suis installé là, puis j'ai réussi à me faire un atelier assez magnifique. Et là, j'ai commencé à travailler plus sérieusement. Et une rencontre, une fille charmante aussi, m'avait dit un jour, mais tu devrais peindre ta vie au fond, raconte ton histoire en peinture. Alors, j'ai trouvé que c'était une excellente idée, puis j'ai attaqué la peinture par cet angle-là, finalement. Et aussi, je m'excuse d'avoir tant à dire, mais j'ai aussi été directeur d'une galerie d'art contemporain entre deux contrats. Ça a duré un an et je m'étais engagé à obtenir une certaine notoriété pour cette galerie-là qui était à Saint-Jérôme, qui est assez connue maintenant, qui est le centre d'exposition du Vieux Palais. Je m'étais engagé à avoir une couverture de presse qui avait de l'allure et qui aurait pu propulser ce centre d'exposition-là sur la carte de l'art québécois ou des galeries au Québec, des bonnes galeries. Et cette institution-là avait la vocation de présenter des artistes contemporains qui étaient souvent formidables, mais aussi souvent qui s'amenaient avec des propositions que je trouvais un peu alambiquées, où, en fin de compte, à un moment donné, on a eu une exposition où vraiment la partie littéraire qui était presque plus importante que l'œuvre elle-même. Puis j'avais toujours cette envie de continuer à peindre. Et à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais faire le contraire des autres. Au lieu d'aller vers l'art contemporain et vers certaines abstractions, je vais descendre complètement dans le sous-sol de l'art et je vais essayer de faire quelque chose, mais qui rejoint tout le monde, sans faire des pots de fleurs, sans faire un travail bon marché. J'avais à un moment donné entendu dire que quand Chagall était commissaire aux arts dans les premières années de la révolution bolchevique, il avait soutenu que tout le monde pouvait devenir un bon peintre. Et il avait commandé de la gouache pour les petits villages, finalement, pour que les gens se mettent à l'art, puis à la peinture. Puis je me disais, sa pensée, finalement, m'avait touché parce que je m'étais dit, voici quelqu'un qui a pas une vision hermétique de l'art. Il a une vision généreuse de l'art dont il propose la pratique aux gens qu'il aime, c'est-à-dire ses compatriotes russes. Alors, je me suis dit, je vais faire un peu ça. Mais pourtant, et finalement, je me suis mis à peindre curieusement les choses que je trouvais laides.
L'aventure est dans les cantons de l'Est en compagnie de Claude de Gaspé-Alain, qui est un grand ami à moi, qui est un peintre. Et qui peint, qui tout raconte, comme on vient de voir dans la première partie, comment il est arrivé à la peinture. Une peinture que tu as décidé résolument d'être figurative, puisque tu racontes des bouts de ta vie dans ta peinture. Est-ce que tu arrives à en vendre, est-ce que, à en vivre?
Oui. C'est-à-dire que... Je te dis que mon train de vie est très minimal. J'ai des priorités. Alors, je vais vous dire mes priorités, vous allez trouver ça singulier. Je tiens à prendre l'apéritif à tous les jours, comprenez-vous? Alors, il me faut les moyens de le faire. Mettre un peu d'essence dans ma voiture pour aller au village. Me chauffer l'hiver et tout. Alors finalement, oui, j'ai eu la bonne fortune de trouver une galerie qui a fait des arrangements avec moi qui me permettent de me maintenir ici. Cette entente-là dure entre nous depuis 8-9 ans.
C'est le genre d'entente qui fait qu'ils achètent systématiquement tes œuvres?
C'est un fait. C'est un fait.
Donc,
oui.
Dès que tu peins, tu es sûr de vendre. Oui, évidemment, le leur vendre plus cher, c'est le jeu
oui.
du marché.
Oui, oui.
Mais tu es assuré de vendre une toile quand tu travailles sur une toile.
Oui. C'est-à-dire que le lien que j'ai avec ce galeriste est le suivant. Son point de vue est « peins ce qui te plaît » et tu me le présentes et tu vas recevoir un chèque. Ce genre d'histoire-là, je suis très chanceux, mais je ne donnerai pas le nom de la galerie pour ne pas embarrasser mon galeriste. Et finalement, cette condition extrêmement précieuse, c'est très, très, très qui me rend un privilégié d'une certaine façon, m'amène à une obligation de résultat. C'est que je peux pas amener à cette galerie-là du travail qui n'a pas une certaine puissance. Alors finalement, je me creuse énormément la tête pour trouver un sujet. Je ne prends pas n'importe lequel. Je vous disais avant notre intermission que j'avais finalement commencé à peindre ce que je trouvais laid. Et ce que je trouvais laid, c'est notamment l'architecture québécoise contemporaine. La cabane, le bungalow, le bâton de phare, le bâton de barbier, que tout le monde s'empresse de mettre sur le dessus d'une butte pour que tout le monde la voie, finalement. D'ailleurs, quand je vous racontais que j'habitais à Rundel, mon critère de base était « je veux pouvoir conduire pendant 15 minutes pour me rendre chez moi sans voir rien de laid. » Alors, j'avais finalement réussi à réunir ces conditions-là à cet endroit-là. T'sais. Je commençais assez sérieusement à peindre à ce moment-là. Puis il y a une autre galerie qui me représentait aussi à cette époque-là. Et à un moment donné, il y a le référendum sur le Québec. Mais je viens d'une famille de la grande bourgeoisie de Québec, finalement, qui est un peu déchue de ses privilèges. Mais il est resté en moi, au fond, un certain goût de l'aristocratie. Et sans vantardise, je dis ça, c'est un défaut que j'ai. Et aussi, c'est que finalement, cette famille, Aline, était d'ascendance anglophone. Et la culture anglophone a toujours été dans mes fibres, finalement. Ça fait partie de moi. Et il y a donc le référendum, quand j'habitais là, à Arundel. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir se séparer? Pourquoi se séparer? Pourquoi se séparer quand on vit dans des maisons mobiles, qu'on reste dans des cabanes, dans des horreurs? ça va nous donner quoi de se séparer? Est-ce que ça va changer tout ça? Est-ce qu'on va être plus heureux? Est-ce que... Et puis finalement, je me suis mis à peindre ces cabanes-là. Et là, il est arrivé un changement assez surprenant. C'est que je me suis mis à me rendre compte qu'il y avait de la beauté dans ce que je considérais de la laideur. Alors, je parcourais en voiture les rangs en arrière de chez moi, puis je voyais une maison mobile avec un pick-up Ford 150, un singe de jardin, puis un drapeau fleur-d'Élysée. Là, je me parquais sur le bord de la route, puis je regardais ça, puis je me dis quand même, il y a de la substance là-dedans. Ben, je vais peindre ça. Et je me suis mis à peindre ça que j'aimais pas, finalement, et dans laquelle je me suis mis à trouver... Je me suis mis à trouver une certaine beauté, une certaine vérité. Et puis finalement, je me suis attelé à chercher plus la vérité que quoi que ce soit d'autre. Ça m'a amené d'ailleurs, il y a quelques années, mon galeriste me dit, vous faites une peinture sociale, c'est pas nécessairement une peinture qui peut plaire à tout le monde. Mais un jour, toujours dans la même perspective des horreurs, que je trouvais sur ma route que je voulais peindre, je me rends compte qu'il y a le 10-30 à l'intersection de l'autoroute 10 puis de l'autoroute 30. Et à un moment donné, j'ai été dans cette espèce de village de Lock et Look pour me rendre compte que finalement, le stucco qui recouvrait ce que je pensais être du dur était du contreplaqué et que j'ai cogné sur des magasins, puis ça faisait toc, toc, toc. Alors, c'était un concept éphémère, au fond, ça, le 10-30.
Des décors.
C'était un décor. Et finalement, je sors de là et je me dis, quelle horreur! En plus, il y a une circulation dense. Il y a des angles morts dans mon auto. J'ai failli me connecter avec une dame. En tout cas, finalement, je sors de là. Et pour accéder là, que vous arriviez de l'Est, des cantons de l'Est, et que vous vouliez aller au distance, il y a des échangeurs circulaires à tous les coins, aux quatre coins, aux deux coins, au coin de la 10, au coin de la 30. Alors, je pars de là. Puis finalement, en revenant chez moi, je me dis, mais... Ce serait une idée, ça, de peindre le 10-30. C'est quelque chose qui me frappe et je ne sais pas pourquoi ils vont tous là, en fin de compte. T'sais. Alors, je suis allé sur Google Maps et je me suis rendu compte que c'était une splendeur vue dans l'air et que si vous regardez l'emplacement du 10-30, vous voyez qu'il y a des boucles qui prennent la circulation de l'autoroute puis qui l'amènent délicatement vers le centre d'achat ou qui font sortir le visiteur du centre d'achat pour le remettre sur ces autoroutes-là. Et il y avait beaucoup de verre. Il y avait dans un coin le 10-30, de l'autre côté, vers l'est de la 10, il y avait un chantier de construction de bungalows. Puis l'autre côté, vers l'est, c'était complètement... c'était vierge encore. Il n'y avait rien de commencé. Il n'y avait pas de chantier. Il n'y avait rien du tout. Et puis, je me suis dit, je vais peindre ça. Puis, finalement, j'ai réussi à peindre le 10-30 avec une certaine perspective. Et ça me plaisait bien, finalement. Et puis, après ça, bien, qu'est-ce qui m'a frappé? C'était la gentrification, par exemple. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de quartiers de Montréal qui étaient après changés. Puis, je me suis dit, tiens, je vais faire un triptyque sur la gentrification. Alors, c'est trois tableaux. Le premier tableau, c'est une fenêtre pour les trois tableaux. Dans le premier tableau, il y a une vieille dame qui est assise à une table avec un chat sur sa table. Puis on voit derrière les armoires très hautes qu'on trouvait à l'époque là, sur le plateau Mont-Royal, dans les maisons qui étaient des très vieilles maisons. Dans le deuxième, on voit en arrière un monsieur en trench coat qui arrive avec une serviette qui vient lui porter un avis d'éviction. On le voit très bien, c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, toujours par la même fenêtre, on voit des ouvriers dont un manie une scie mécanique Makita qui est en train de couper des 2x4 parce qu'ils sont en train de reconfigurer l'appartement de madame. Et on devine dans la configuration du nouvel appartement rénové que finalement, ils ont gardé des structures qui appartenaient à l'ancienne, qu'on les reconnaît quand on regarde la première. Et dans la troisième, ben là, les travaux sont faits. Parce que dans la deuxième, on voit aussi un électricien qui est en train de passer des fils dans une boîte de courant derrière un panneau dans une boîte de courant fixée sur un panneau de J-Proc, de gyps, là. Et finalement, l'arle troisième, alors là, c'est rénové, c'est complètement de l'acier inoxydable, c'est design, c'est au goût, c'est à la mode. Et dans un coin, il y a un agent d'immeuble qui est en train de servir un café à son client dans un stéréocope en plastique. Et ce personnage-là a une allure. Alors, il est debout, il est à côté, sur un comptoir nickelé. Et sous son bras, il tient une petite sacoche, comme moi et ma compagne, on classe une certaine partie des hommes d'affaires, souvent d'anciens fonctionnaires qui transportent leur butin dans une petite sacoche sous leur bras, et on appelle ces gens-là des sacoches. Et ce gars-là, qui est dans l'appartement rénové, pendant que sa femme furette derrière une ouverture qu'on voit pour voir si ça lui plaît, il y a un petit chien, un chien minuscule qui est gros comme un petit rosbif à quatre pattes, qui est au bout d'une laisse, qui est à terre, puis qui regarde son maître, finalement. Et on devine que la vente va être conclue bientôt, ça plaît, c'est dans le goût.
C'était un bel exemple de genre de sujet que tu peins, mais je voudrais que tu me parles un peu de ton style. Tu as un style qui est un style très signature. Il n'y a rien que toi là, qui peint comme ça de ce temps-là. Tu peux le décrire un peu?
Oui. Oui, mais comme on peut le deviner, c'est extrêmement narratif. C'est non seulement figuratif, mais c'est dans le sous-bassement de l'art actuellement, on pourrait avoir honte de faire ça parce que c'est
ça,
pas.
Ça, c'est toi qui le dis, là.
Mais... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas très porté dans le.
C'est pas à la mode.
C'est pas à la mode. C'est pas à la mode, c'est pas les préceptes de l'art universitaire, je dirais. Et d'ailleurs, c'est ce que ma préoccupation finalement, et non seulement, et pas tellement de que ce soit narratif, mais j'ai une grande préoccupation pour la couleur. Et finalement, le travail que je fais est très long à faire parce que ces sujets-là, qui sont souvent des sujets triviaux, sont rendus d'une façon assez percutante par une technique que j'ai découverte par hasard, qui s'apparente un peu à la pixiation qu'on voit à la télévision. Alors, mes outils de travail, c'est pas le pinceau, moi. C'est l'aiguille à coude des boutons de culotte.
Tu grattes.
L'entièreté, pratiquement, d'une surface que je peins est composée est faite avec les contrastes des couleurs primaires. Par exemple, je vais déposer un point dans l'herbe d'un décor qui fait partie de ma peinture, mon herbe, mon gazon va être constitué de minuscules points dans lesquels je vais déposer de plus minuscules points encore avec une aiguille d'un autre calibre, d'un point rouge déposé dans le point vert qui a un diamètre microscopique mais plus gros que le point rouge. Alors vous avez ça. Et ça vous bombarde. Et quand vous regardez ça, effectivement,
Et selon qu'on la regarde de plus près ou qu'on s'éloigne,
ouais,
c'est un
ouais,
tout autre
mon,
effet.
Mon principe, c'est qu'on puisse distinguer, même de très loin. Alors, vous avez là, cette technique-là donne une très haute définition. Vous pouvez la voir de très loin et ça fait la job, comme on dit. Thank you.
L'aventure de Claude de Gaspé. Alain, nous sommes dans les cantons d'Est. Chez lui, le chien est jamais trop loin quand Claude est là, qui nous raconte son aventure de peintre, finalement. Est-ce que tu as des modèles, des peintres que tu admires particulièrement?
Oui. Ah oui. En fin de compte, dans le fond, ce que j'essaie de faire avec la couleur, je vous parlais de la pixiation, c'est que finalement, j'essaie de faire des choses que la couleur ne fait pas toute seule. Hein? Et finalement, malgré la trame narrative de mon travail, mes peintres favoris sont des gens comme Molinari, en qui je me retrouve dans la physique de la couleur, finalement, qui produisent des œuvres où, finalement, c'est non seulement des couleurs, mais c'est des longueurs d'onde qui vous bombardent. C'est la physique des couleurs qui se déchaîne sur vous, en fait. Beaucoup d'autres de mes idoles en peinture sont des gens comme Mark Rothko, par exemple, tu sais, qui est un peintre américain des néo-expressionnistes, là, va peindre, par exemple, un carré rouge sur un fond noir. Et j'ai vu ce truc-là au musée Guggenheim à New York, puis je suis resté assis devant pendant trois quarts d'heure. Et puis j'étais comblé. J'ai été comblé aussi, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, devant une peinture de Molinari. Je me suis laissé avoir par cette peinture-là et j'ai senti quelque chose. J'ai senti... C'est une peinture qui peut paraître difficile pour les gens qui n'ont pas cette expérience-là. Mais dans le monde de la connaissance, il faut faire un effort à un moment donné, vous savez. Et cet effort-là, si vous le faites, vous rapporte des dividendes extraordinaires. T'sais. C'est pareil en musique. Si vous écoutez, vous n'arrivez pas à écouter la musique de Bruckner du premier coup. C'est un long escalier qu'il faut monter. T'sais, c'est les marches de l'Oratoire Saint-Joseph, des fois qu'on monte à genoux, mais qui nous donne la grâce au bout du compte. Alors, j'étais assis devant cette œuvre de Molinari ou de Rothko, des fois. Et puis finalement, je suis sorti sur la rue Sherbrooke après, en me disant, je me suis fait nettoyer complètement l'esprit. Il ne reste plus une saleté dans ma tête. Je suis en état de grâce. Je suis à mon meilleur. Merci, M. Molinari. Votre œuvre merveilleuse m'a nettoyé de ma misère humaine.
Tu vis seul. Tu as une compagne qui vient régulièrement, mais qui n'est habituellement pas ici. Hein?
Qui vient la fin de semaine.
Enfin, la fin de semaine. Mais de la semaine, tu vis seul cette vieille maison et ton atelier, tout ça. Comment tu vis ça, cette solitude-là?
Ah, c'est je suis quelqu'un qui est assez ermite, finalement. Je peux passer beaucoup de temps seul ici, mais... Je vous disais que j'aime l'apéritif au début. C'est qu'à tous les jours, je prends ma voiture, je descends au village, qui est à peu près à 15 minutes d'ici, et je vais m'acheter une bière, je vais faire mon marché, et je fais ma vie sociale au IGA du village. Et une autre habitude que j'ai d'observer mes semblables, c'est la suivante. J'ai cessé de fumer à un moment donné, mais j'ai réussi à fumer que le samedi soir. Alors, le samedi soir, c'est pour moi la fête, parce que à 3 heures de l'après-midi, je m'autorise à aller acheter un paquet de cigarettes et un apéro convenable. Et avant de me livrer à ce protocole-là, le premier élément de mon protocole, c'est que le samedi, je vais acheter le devoir, j'achète une bière. Je ne devrais pas dire ça parce que ça peut m'attirer des ennuis. J'achète un breuvage que j'amène dans le parking du IGA. J'ouvre mon paquet de cigarettes, je baisse les fenêtres de la voiture, je me trouve un stationnement puis j'observe ce que je vois en prenant mon breuvage et en fumant mes cigarettes. Et j'observe là un cirque absolu qui est celui de la condition humaine. Hein? vous avez deux personnes qui sortent d'un gros vu sur un BMW, qui débarquent chacun de leur bord, un homme, une femme, mais tous les deux connectés à leur téléphone cellulaire. Ils parlent à quelqu'un d'autre. Et vous allez dans le IGA, en fin de compte, parce que vous avez passé une demi-heure à regarder ce qui se passe. Et là, vous voyez un type qui est devant une canne d'artichaut et qui appelle sa femme pour demander s'il devrait prendre des artichauts le large ou des artichauts nos compliments. Alors là, ça me fascine complètement. C'est dans les sujets qui m'inspirent, finalement. Je me dis, mais comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à prendre une hypothèque aussi considérable sur les progrès de la technologie? Ça, c'est quelque chose qui me... Mais, en fait, il y a quelque chose que je tiens à dire aussi. C'est que j'ai une compagne comme ça qui vient me visiter. Mais j'ai aussi une jeune fille, ma fille. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que la peinture m'a apporté énormément. Mais un des grands privilèges de ma vie, le plus grand de tous les privilèges, c'est de me faire appeler papa. C'est la plus grande réussite de ma vie. Comme ils disent en anglais, « It was my finest hour ». C'est ça. Et
la relation avec elle, ça se passe bien?
Ah oui, c'est une merveilleuse relation. C'est une petite noire qui a été adoptée par ma compagne alors qu'on s'était séparés et on s'est remis ensemble pour donner à cette petite fille-là qui est devenue la prunelle de nos yeux un papa et une maman. Et... Je lui ai tout de suite acheté des carnets à dessiner, des crayons, des papiers, des boîtes à dessin qu'on laissait dans le coffre de l'auto, dans le coffre à gants de l'auto. Et finalement, à travers la peinture que je faisais, il y avait cette fraîcheur que cette petite fille-là m'amenait pendant toutes ces années-là, où je lui ai montré ses tables de multiplication, où je lui ai dessiné l'histoire de sa vie, comment elle était pour se marier avec le plus bel homme du monde.
Des promesses.
Des promesses. Et je pense maintenant qu'elle est affranchie des idées de mariage. Mais finalement, c'est ça. C'est ici, dans cette maison-là, que finalement les grands moments de ma vie se sont déroulés, au fond. Et il faut qu'on parle un peu aussi de ma maison, parce que mon équilibre psychologique tient au fait que c'est une maison qui a 100 ans. C'est une vieille maison de ferme sur le bord d'un rang. Et c'est une maison que j'ai conditionné à ma manière et par des bricolages qui complétaient le temps libre que j'avais, qui occupaient le temps libre que j'avais. Et je passe beaucoup de temps à résoudre des problèmes triviaux parfois. Et ce dont je me rends compte en vieillissant, c'est que vous avez un problème, n'importe quel problème, mais je l'ai découvert dans la réfection de ma maison. Vous avez un problème insoluble, asseyez-vous et ne faites rien. Et laissez le temps passer, la solution va vous jaillir dans la figure au moment où vous en entendez.
Tu l'as expérimenté, ça?
Ah oui, tout à fait. Oui. Puis je déteste demander de l'aide, au fond. J'ai réussi à soulever des poids considérables ici, par des techniques que j'ai inventées qui n'étaient pas étrangères ou à celles que les Égyptiens utilisaient pour construire leurs pyramides, finalement.
C'était le roi du levier.
Là. Le roi du levier, de la roulette et du rouleau.
La santé, tu vieillis comme moi.
Oui.
Ta santé, comment ça va? Tu as eu des problèmes,
je pense. Oui, il y a 4 ou 5 ans. C'est qu'en fin de compte, il y a un élément que je devrais mentionner qui est un prix qu'il faut payer pour avoir la liberté. C'est que finalement, mes moyens de subsistance sont malgré tout extrêmement modestes. Mais j'y arrive. Mais sauf que finalement, je me rends compte que presque toute ma vie, j'ai frôlé la précarité, les précipices de la précarité, presque sans arrêt. Et finalement, ça induit un stress qui devient permanent, auquel vous vous habituez, comme quand vous marchez avec un caillou dans votre soulier, un petit caillou que vous pouvez pas dont vous pouvez pas vous débarrasser sans ôter votre bottine et la délacer, mettons que vous l'endurez. Alors, c'est un peu ce que je fais, et ça a induit un stress, puis à un moment donné, je pense que ce stress-là m'a amené un cancer des lymphomes, une forme de cancer des globules blancs, pour lequel j'ai subi une chimiothérapie, et j'ai été complètement, pratiquement guéri. Il n'y a pas eu de rechute, ça fait 5 ans. Et j'ai retrouvé ma forme parfaite et mon énergie.
Est-ce que ça a changé ta façon de voir ta vie?
Oui. Pendant que j'avais ces traitements de chimiothérapie, c'est un calvaire épuisant. Vous perdez votre énergie. Vous n'avez plus d'autre énergie que de vous déplacer de votre fauteuil à l'évier de la cuisine ou à la cafetière. Je m'assoyais dehors, puis je regardais tomber la neige, puis je me disais, c'est quelque chose que j'avais perdu de vue de voir tomber de la neige ou de voir un oiseau qui est sur une branche et qui est là, que je n'avais pas observé avant. Puis finalement, le spectre de ma vision s'est concentré sur j'ai eu comme une vision microscopique de mon environnement, alors que avant elle était macroscopique, mais ça m'est passé, puis je suis revenu à mes vieilles habitudes. Je remarque moins la neige qui tombe.
Quand on additionne ta façon de voir les autres à travers ta peinture, mm-hmm. est-ce que tu nous décris aujourd'hui, oui, oui. quand tu observes les humains dans ton stationnement digéré?
Oui, oui.
Tu es assez pessimiste sur l'humanité actuelle, non?
Je claironnerais que c'est un oui à ta question. Je suis extrêmement pessimiste, mais je l'étais. En fin de compte, je l'ai toujours été. J'ai toujours été quelqu'un de relativement pessimiste. Je me disais dans les années 80, ça va péter, ça peut pas continuer comme ça. Et puis, dans le fond, finalement, j'ai toujours attendu la fin du monde. Mais finalement, elle n'arrive pas. Alors, j'espère l'avoir de mon vivant. Ce serait avoir été privé de tous les efforts que j'ai faits pour être pessimiste pendant ma vie.
Ça justifierait ton pessimisme.
Oui. Et finalement, j'ai contaminé un peu mon environnement humain avec ça. Et maintenant, je me rends compte que finalement, mes congénères sont beaucoup plus pessimistes que moi. Ça leur tombe comme une... j'écoute la radio, puis c'est alarmiste même. On s'alarme. Puis on a bien raison de le faire. Et oui, je suis pessimiste. Je pense que l'histoire nous rejoint au pire moment au pire moment de l'histoire de la planète. C'est que finalement, à travers l'histoire, je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait des études d'histoire.
J'allais justement te poser la question. À travers ta passion d'histoire,
oui.
Tu peux situer peut-être où l'humanité a pris le mauvais chemin, le mauvais embranchement.
Oui. Je pense qu'elle a... En fin de compte, c'est à mon avis, à l'époque, je dirais, des élections de M. Mulroney en 1995, où le Parti conservateur avait défait Jean Chrétien, et c'était l'époque aussi où on envisageait sérieusement de faire la mondialisation des économies. Alors, avec M. Reagan, avec Mme Thatcher en Angleterre, et puis, finalement, je pense que l'ouverture des marchés, conjuguée avec la montée de la technologie, a créé un univers les gens qui ont envisagé la mondialisation avaient vu très juste. C'est que ça allait augmenter d'une façon géométrique la consommation. Et naturellement, bien, c'est le mal qui va nous emporter. Je veux dire, c'est la source de la pollution. Et aussi, c'est que finalement, les technologies de l'électronique, dans le fond, je dirais que sur cette période-là, sur cette fenêtre-là que l'histoire nous a présentée, il y a l'histoire de la mondialisation et il y a l'avènement de l'Internet, qui était, à mon avis, dans l'esprit de ses fondateurs, un outil formidable qui avait été, dans le fond, destiné au partage des connaissances, au rapprochement des êtres humains. Et finalement, je pense que c'est en train de devenir le poison, la ciguë qui va tout nous emporter, parce que finalement, vous savez, l'humanité est partagée. Vous avez vu la courbe de Gauss qui est divisée en 10 tranches. Vous avez des pas fins à une extrémité jusqu'au très fin à l'autre extrémité, et vous avez des tranches comme ça. Mais vous remarquerez que la tranche des très fins est très mince. Alors, vous avez un paquet de tatas derrière, sous la courbe, et finalement, vous donnez à cet univers-là des moyens de communication. De communiquer quoi? Bien, de communiquer leur ignorance, de propager leur ignorance, ce qui va éventuellement, à mon avis, amener le chaos.
Je pense que là-dessus, on va se quitter. Écoute, il faut quand même se consoler un peu. Je me suis apporté, je nous ai apporté deux bons cigares.
Alors, c'est une des beautés de la vie.
C'était l'aventure, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté, Robert Blondin ici, à la semaine prochaine.